Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Et on nous fait croire qu'on a besoin de trucs, et vraiment, on nous fait croire qu'on a besoin du dernier legging à la mode, qu'on a besoin du tapis, comme tu dis, qui coûte un rein, qu'on a besoin des chaussettes pour pas glisser, c'est le dernier truc, qu'on a besoin, quoi d'autre? On a besoin de rien, mais vraiment de rien. On peut pratiquer dans l'herbe, alors en ce moment pas trop, mais il n'y a pas besoin, et j'ai envie de dire, c'est comme tout, avant d'acheter quoi que ce soit, et de déjà commencer, déjà juste commencer.
Hello, je suis Isadora.
Et moi Marisa.
Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel.
Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations.
Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine.
N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle.
Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez.
Bonne écoute.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intention. Alors aujourd'hui, c'est à nouveau moi, Marisa, qui serai votre hôtesse. Mais encore une fois, je ne serai pas seule puisque aujourd'hui, j'ai l'immense chance d'accueillir Audrey. Audrey qui est professeure de yoga depuis maintenant 10 ans et qui a son propre studio de yoga sur Angers. Et également qui a ouvert récemment sa plateforme par abonnement pour faire des cours de yoga en ligne qui s'appelle 100% Yoga. Audrey, c'est une femme que j'adore tout simplement parce qu'elle est solaire, elle est bienveillante, elle est extrêmement drôle. Vous allez le voir dans cet épisode, j'ai rigolé les amis, elle est très drôle. Et elle prône un yoga très décomplexé, loin de ce que l'on peut voir en fait finalement sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Puisqu'aujourd'hui le yoga c'est vraiment... une mode, on peut le dire, alors que c'est une pratique qui est séculaire, mais c'est vraiment une mode où on a l'impression qu'il est nécessaire d'avoir le corps parfait, les habits qui coûtent 3 reins, le tapis qui va bien, faire des poses acrobatiques, enfin bref, elle nous montre en fait au travers de ses cours en ligne, de ses cours en studio et également à travers son compte Instagram, que le yoga, ça peut être tout à fait, et ça devrait être d'ailleurs, tout à fait simple, loin en fait du marketing que l'on voit actuellement. Et vous le savez peut-être, mais Isadora et moi, on n'est pas tant fans de yoga. C'est une pratique que l'on essaye à chaque fois, que l'on reteste et en fait... Je sais pas pourquoi, on n'accroche pas. Et d'ailleurs, j'en parle très ouvertement et très honnêtement avec Audrey. Et justement, je voulais avoir en fait ses conseils et son avis de professeur de yoga sur comment elle, le yoga, a changé sa vie. Parce que comme vous allez le découvrir dans cet épisode, Audrey était comme nous en fait finalement, il y a quelques années, elle n'aimait pas le yoga. À travers cet épisode, on a une discussion extrêmement enrichissante sur le yoga. Pourquoi le pratiquer? En quoi il change la vie? En quoi le yoga, ce n'est pas simplement que une pratique à faire sur un tapis, mais que ça se pratique dans la vie quotidienne. Tous les jours, il faut faire un peu de yoga dans sa vie. Donc c'est parti, je vous laisse avec cette discussion que j'ai adoré partager avec Audrey. Donc Audrey, si tu m'écoutes, eh bien encore un immense merci. C'était très enrichissant et ça me donne très 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 envie de me mettre au yoga, de trouver le yoga qui me convient. Donc je vous laisse avec cet épisode et puis je vous dis à bientôt. Coucou Audrey et merci d'avoir accepté de participer à cet épisode d'Intention avec moi, ça me fait trop plaisir.
Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Avec plaisir. Alors dis-moi Audrey, alors les personnes qui nous suivent savent que nous on n'est pas des grandes pratiqueuses de yoga, voilà, on pratique pas trop le yoga. C'est une pratique qui m'a toujours intéressée mais je m'y suis jamais vraiment mise. Pourquoi ? On va discuter ensemble de pourquoi.
Dis-moi pourquoi.
Pourquoi je me suis jamais mise ? Est-ce que parce que j'ai toujours cette impression... En fait, le yoga, pour moi, c'est quelque chose de très lent. Et en fait, moi, c'est ça qui est paradoxal, c'est que je suis une pile électrique très anxieuse, donc je devrais pratiquer pour m'apaiser, t'es d'accord ?
Je suis en train de hocher la tête et de faire des grands oui avec ma tête.
C'est ça. Mais d'un côté, je suis toujours quelqu'un qui aime le sport très vif, tu vois, la danse. Et donc, du coup, j'ai l'impression que toujours que... Pas que je m'ennuie, mais que c'est pas assez rapide. Et surtout, j'ai un gros problème d'être présente. Donc, quand je fais du yoga, j'ai mon esprit qui part dans tous les sens. Ah bah tiens, si je faisais pas ça ce soir, si je faisais, tu vois. Donc, c'est ça mon problème de yoga, avec le yoga.
C'est pas vraiment un problème en soi, mais ça me rappelle, moi, quand j'ai commencé le yoga, j'étais exactement pareil. Je faisais très, très, très sportive. Je faisais des triathlons. Je m'entraînais très souvent pour faire les triathlons. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui rigole beaucoup, qui tout le temps dans l'action. Et mes premiers cours de yoga, c'était chiant à mourir. Et il faut le dire comme ça. J'étais allongée, les yeux fermés, et j'étais en train de me dire, alors, je pourrais faire ça, je vais faire ma liste de courses pendant que j'ai les yeux fermés. Après, je vais pouvoir faire ça. Il faut que je réponde à un mail. Et en fait, j'arrivais pas du tout à être présente. Tout le monde me disait, le yoga, c'est trop bien, ça te pose. Moi, je trouvais ça chiant. Vraiment, quoi. Je m'ennuyais et c'était pas pour moi.
Tu vois, ça me rassure parce que t'es quand même une prof de yoga depuis combien d'années maintenant?
Ça va faire 10 ans.
10 ans que t'es prof de yoga, donc ça me rassure de me dire que je suis pas folle, parce que moi je me disais, mais je comprends pas, tout le monde kiffe, moi je kiffe parce que ça m'apaise, mais je me dis pas, tiens, demain je recommence. Et toi, du coup, pourquoi t'as voulu commencer le yoga, et pourquoi, malgré le fait que tu t'ennuyais et que tu pensais à ta liste de courses pendant que tu pratiquais, tu t'es dit, je vais persévérer, et pire, je vais en faire mon métier.
Si on m'avait dit à l'époque, très franchement, mes premiers cours de yoga, si on m'avait dit à l'époque, Audrey, un jour tu seras prof de yoga, mais vraiment, j'aurais dit, mais jamais de la vie, ça me correspond pas du tout, c'était trop... Alors je vais te dire pourquoi, c'est que moi, mes premiers cours de yoga que j'ai fait, c'était imposé. Donc, je travaillais dans une entreprise où on était obligé. C'était une entreprise de vente de fringues de sport et qui était beaucoup dans le bien-être de ses employés. C'était en Angleterre. Et donc, on était obligé tous les mercredis à midi. L'entreprise s'arrêtait de fonctionner et on devait tous faire un cours de yoga. Tous ensemble.
Ah, c'est drôle.
Non, mais c'était génial. Alors, donc, je faisais.
C'est génial, c'est fun.
Mais super, parce qu'en fait, tu faisais ton cours de yoga avec ton grand patron qui était à côté de toi en short, avec les vendeurs, avec les personnes des ressources humaines. Enfin, tout le monde se retrouvait pour faire le cours de yoga. Et c'était fait par une dame assez âgée, qui était très, très bien. Hein. Mais du coup, moi, qui ne correspondait pas du tout à mon rythme de vie à l'époque, à ce que... Enfin, ça ne me parlait pas du tout. Et moi, toutes mes copines... Alors, on parle de là, l'Angleterre, il y a 15 ans, donc le yoga était beaucoup plus développé qu'en France. Et moi, toutes mes copines, elles kiffaient le yoga. Et moi, je leur disais, mais c'est pas mon moment dans la semaine que j'apprécie. Donc, si on m'avait dit à l'époque que je deviendrais prof de yoga, j'aurais vraiment dit jamais de la vie. Et en fait, ce qui a changé pour moi, donc ça, je l'ai fait pendant 2 ans, à pas kiffer du tout. Donc, il faut imaginer le truc, toutes les semaines, j'y allais en me disant, je crois même que j'ai dû peut-être me faire des faux mots d'excuses pour pas y aller des fois. Normalement, je peux pas aller à un rendez-vous très important. Enfin, bref. Et en fait, on a déménagé les bureaux de l'entreprise pour laquelle je travaillais et on s'est retrouvés au-dessus d'un studio de yoga qui proposait du yoga dynamique, donc du power, ce qu'on appelle le power.
D'accord.
Et donc, on y est allé. Moi, je m'attendais à ce que ce soit la même chose. Et alors là, ça a été la grosse surprise. On est passé d'une dame qui devait avoir 75 ans, qui nous faisait le cours, à une américaine qui avait 30 ans. Une américaine qui parlait très, très fort, qui racontait que des conneries. Et c'était, sportif au point où j'ai transpiré comme jamais j'avais transpiré. Donc, alors que je faisais de la course à pied, des triathlons. Et là, en fait, il y a eu un vrai déclic où, comme tu disais, là, pendant 1 heure, j'ai pas pensé à ma liste de courses. J'ai galéré parce que c'était intense. Je me suis sentie connectée à mon corps comme jamais. À la fin du cours, j'étais lessivée, mais dans le bon sens du terme, vraiment avoir l'impression de m'être complètement vidée de tous mes soucis, de toutes mes pensées. Donc, quand on est arrivé à la fin, ce qu'on appelle le Shavasana à la fin, j'étais juste super bien. Et je suis sortie en me disant, ah ouais, là, ça me parle. Là, ça me correspond plus. Et donc, j'ai continué une fois par semaine au début avec le boulot. Et puis après, je me suis dit, en fait... j'ai plus envie d'aller courir, j'ai plus envie d'aller dans ma salle de sport parce que d'un coup, ça a plus trop de sens, c'est bizarre. Enfin, il y avait un truc qui était, je me sentais vraiment connectée quand je pratiquais. Et moi, j'ai vraiment appris à aimer le yoga et je suis vraiment devenue complètement accro par le biais du yoga dynamique.
D'accord. Ah bah, tu vois, ça me rassure. Et justement, une question qui est venue aussi de la part de mes abonnés, du coup, sur Instagram. Est-ce que pour toi, le yoga, c'est du sport? Est-ce que tu pratiques le yoga comme un sport ou est-ce que tu as d'autres activités sportives? Et est-ce que tu estimes, toi, en effet, que si tu veux, parce que nous, on est sur un podcast de l'alimentation saine, rééquilibrage alimentaire, etc. Est-ce que tu estimerais qu'une personne qui veut faire un rééquilibrage alimentaire, c'est une bonne pratique pour toi?
C'est des questions qui sont tellement belles. Merci à tes abonnés de les avoir posées. Non, mais c'est génial de pouvoir partager. Alors, ça n'engage que moi, hein, c'est ma vision du yoga, mais c'est génial d'avoir des questions comme ça. Alors, est-ce que c'est un sport? Non, ça dépend. Si le sport, c'est d'avoir une performance sportive, s'il y a le mot performance dedans, c'est pas un sport. OK? Ça peut être une activité physique. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le yoga, il y a plusieurs branches, plusieurs particularités du yoga. Et il y en a 8 au total. Donc, si on part vraiment d'un point de vue historique, entre guillemets, il y a un grand sage, je vous donne tout, mais qui s'appelle Patanjali. Ça va pas vous changer votre vie de savoir comment il s'appelle, mais il s'appelle Patanjali. Et il a dit, le yoga, ça consiste en 8 branches. Et dans ces 8 branches, on commence par les règles de vie par rapport à soi. Donc, par exemple, c'est des règles de non-violence, de bienveillance, tous ces trucs-là. Après, on a les règles de vie avec les autres. C'est l'inverse. C'est d'abord les règles de vie avec les autres et après les règles de vie par rapport à soi. Mais il y a les deux. Donc, les règles de vie avec les autres, donc d'être dans le respect des autres, pas d'être dans la jalousie, tous ces trucs-là. Après, on passe avec tout ce qui est respiration. Donc, c'est une branche du yoga. Il y a des gens, des fois, ils me disent, moi, je fais que de la respiration, je fais pas du yoga. Ben, en fait, si tu fais du yoga, parce que si tu fais de la respiration, du travail de respiration, c'est aussi une partie du yoga. Après, il y a l'activité physique. Donc, ce qu'on appelle les asanas. Les asanas, ce sont les positions de yoga. Donc, c'est une branche également du yoga. Il y a également la méditation. Donc, il y a des fois des personnes qui disent, moi, je fais pas de yoga, je fais que de la méditation. Pareil, c'est du yoga également. Donc, c'est génial. En fait, tout ça, ça fait partie du même truc. Et tout ça pour arriver à la fin où, en fait, on est dans la dernière branche. C'est vraiment le nirvana, c'est le bien-être, comment on peut dire, pas parfait parce que j'aime pas ce mot-là, mais quand on pratique toutes les branches, on arrive à la dernière branche où normalement on est vraiment en union parfaite avec notre corps, notre tête, le monde autour de nous. Donc, c'est pas une activité, c'est pas un sport en soi, mais ça peut être une activité physique, mais qui ne représente qu'une seule branche du yoga.
D'accord, tu vois, je savais pas. Donc, en fait, le yoga, en plus, je voulais commencer cette interview, même si je préfère dire une discussion, en te demandant, mais qu'est-ce que le yoga? Parce que finalement, oui, ça, tout part de là, qu'est-ce que le yoga finalement?
Mais complètement. Et le yoga, donc c'est ça, c'est 8 branches au total. Je t'ai donné les plus importantes parce que c'est celles qu'on connaît le plus. Mmh. Donc celles qu'on pratique le plus souvent, ce sont les asanas, les positions, la respiration, le pranayama, d'après ça le pranayama, et puis la méditation. Donc, c'est souvent celle qu'on pratique le plus. Et ce qui se passe, en fait, c'est que quand on commence à pratiquer une des branches, peu importe comment on y rentre, en fait, on peut y rentrer par la méditation, par les asanas, par la respiration. À un moment donné, en fait, notre pratique régulière fait qu'on commence à toucher un peu plus aux autres branches également. Et donc, je te parlais, par exemple, de les premières règles qu'on appelle donc les yamas et les niyamas. Donc, c'est les règles de vie avec les autres et les règles de vie par rapport à moi. Et ben, ça, c'est la vie de tous les jours. Il n'y a pas besoin d'un tapis, il n'y a pas besoin. Et donc, quand on commence à pratiquer régulièrement, eh ben, on commence à toucher à ces autres branches parce qu'on se rend bien compte que le yoga, c'est pas que ce petit bout sur le tapis une heure par semaine. Ça a tellement plus de, et c'est ça, en fait, qui change la vie. Donc, on peut pas dire que le yoga, c'est un sport parce que je trouve que ce serait le limiter à juste une branche. C'est une philosophie de vie. C'est une façon de vivre qui commence parfois sur le tapis et puis qui prend de plus en plus de place et qu'on ramène dans notre vie de tous les jours. Donc oui, on peut passer par le corps et on passe souvent par le corps, mais il n'y a pas que ça. Je ne sais pas si ça répond à...
Si, tout à fait. Parce que tu vois, moi, je ne savais pas du tout. Pour moi, le yoga, c'était ce qu'on voyait sur le tapis. Même si je sais que tu en parles beaucoup sur Instagram en disant que toi, tu pratiques sur et hors tapis.
Mais c'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui me disent « Oh, tu sais, moi, le yoga, je pratique qu'une fois par semaine ou une fois par mois ou n'importe. » Et quand je discute avec eux, je leur dis « Moi, je suis quasi sûre que tu pratiques le yoga presque tous les jours. » Ils disent, ah non, je te promets, j'y m'en parle pas de monter sur le tapis. On parle d'avoir des petits moments dans la journée où on est en bienveillance avec les autres, en bienveillance avec soi-même. Des petits moments, par exemple, tu pourrais t'énerver contre le voisin qui t'a fait une queue de poisson dans la voiture ou n'importe, et puis tu décides de pas le faire. Ou des moments où tu vas manger, tu me parlais de rééquilibrage alimentaire. Mais ça, c'est du yoga pareil, parce qu'en fait, c'est faire des choix qui vont nous nourrir et qui vont nous faire du bien.
Oui. D'accord.
C'est vraiment ça, c'est que quand on pratique le yoga, on réapprend l'équilibre. Donc tu vois, ce rééquilibrage alimentaire, mais c'est exactement ça. Quand on pratique le yoga, on rééquilibre notre corps, notre tête, notre façon d'être. Et donc, par exemple, il y a des gens qui commencent le yoga qui me disent « Moi, je suis très, très raide. J'ai besoin de souplesse. » Eh bien, le yoga, ça va aider à ramener de la souplesse. Il y a d'autres personnes qui disent « Moi, je suis… pas du tout fort, j'ai besoin de muscler mon dos, j'ai besoin de muscler, et ben le yoga, ça va retrouver en fait, nous aider à nous rééquilibrer. Donc ce rééquilibrage alimentaire, il est complètement dans la lignée du yoga, c'est exactement ça, c'est refaire des choix sur le tapis, en dehors du tapis, des choix de vie qui nous nourrissent et qui nous font du bien.
D'accord, c'est génial. Mais alors, dis-moi, quelqu'un comme moi, ou pire, quelqu'un comme mes abonnés, par exemple, qui sont intéressés, parce que ce que tu viens de dire, c'est tellement beau que tu as envie de commencer demain. Par quoi tu dirais à une personne qui est complètement novice, qui n'a jamais fait de yoga, qui t'entend là et qui a envie de se dire, bah vas-y, moi j'ai envie de commencer, tu conseillerais de commencer comment ? Est-ce que tu conseillerais de commencer par le tapis directement, ou est-ce que tu commencerais par de la méditation, ou... Voilà.
Moi, je vais te retourner la question, Marisa, et je te dis, ok, j'ai jamais mangé de légumes. Par quoi je commence ?
Les épinards, non, je rigole. Bah ouais, bah non, je peux pas te répondre parce que tu préfères, parce que ce qui t'attire, parce que ce qui te parle, quoi.
Eh ben, c'est le yoga, c'est la même chose. C'est qu'en fait, à un moment donné, c'est arrêter de se mettre la pression déjà qu'il faut absolument qu'on trouve le yoga qui est parfait pour nous, nanana, nanana, et que le premier cours, soit on va le kiffer, soit on va détester, et puis c'est la fin. C'est se dire, je vais aller goûter, je vais aller essayer, je vais aller faire un cours, et puis je vais me dire, ok, ça me correspond, ok, ça me correspond un peu moins. Et puis en essayer plein de différents, avec des profs différents, des styles différents, jusqu'au jour où, je vous le souhaite, vous trouviez la personne, le cours de yoga qui vous correspond à un moment donné, parce qu'après on évolue, puis on n'a plus envie ou besoin des mêmes choses. Mais c'est ça, c'est rester curieux et pas se dire, je goûte une courgette, j'aime pas la courgette, ça veut dire que j'aime pas les légumes.
Oui, c'est vrai. Ah d'accord, oui.
T'as goûté une courgette parmi tous les légumes, et puis en plus t'as goûté une courgette qui a été cuisinée d'une certaine façon. Il y a plein de façons de... Et le yoga, c'est pareil, il y a des milliers de styles de yoga, des millions de profs, et c'est rester curieux et puis essayer et se faire confiance que on n'est pas obligé. C'est pas parce que notre copine Georgette, elle aime ce cours-là, que nous on va aimer le même cours. C'est vraiment continuer à. Donc voilà. Donc je peux pas.
Oui.
Et puis tu vois.
Oui, non, je comprends. Et puis Serge, c'est bien argumenté ce que t'as dit. Donc j'avoue le coup de me retourner la question. c'est coquin. J'aime beaucoup. C'est cocasse.
En plus, regarde, Marisa, tu disais, toi, tu sens que t'es quelqu'un de hyperactif et que t'as besoin donc de calme et de te poser. Sauf que si je te propose un yoga qui est très calme et très lent, tu t'ennuies et donc ça te fait rien. Donc finalement, ton besoin ou le résultat que tu veux de pouvoir te poser, on va y arriver, mais d'une autre façon. Et on va finalement y aller par le mouvement, par peut-être la transpiration, le corps, machin. Donc, c'est pas tout le temps ce dont on a besoin qu'il faut faire tout de suite. On va y arriver à notre besoin à la fin, mais parfois, il faut détourner un peu le truc et aller plutôt, pour toi, par exemple, dans ton cas, et c'est certainement d'autres personnes aussi, y aller dans le physique, y aller vraiment dans le « je me dépense ».
D'accord. Ah bah justement, du coup, il y a plusieurs types de yoga. Donc, je comprends qu'il y a le yoga power qui est un peu plus actif. Donc, moi, je pense que c'est vers quoi je me tournerais. Une personne, donc, qui... C'est quoi toutes les... Est-ce qu'il y en a plein ? Ou il y en a 1000 ? Ou est-ce que tu peux les... Il y en a plein,
plein, plein ? Il y en a plein, plein, plein. Alors, je peux vous donner les plus connus. Déjà, ça va vous aider. Mais en vous rappelant, encore une fois, je reprends la courgette. On est lancé sur la courgette, qu'il y a la courgette. Et après, en fonction de comment elle est cuisinée, en fonction du chef cuistot, elle ne va pas avoir le même goût et ça ne va pas être la même chose. Donc, même si je peux vous donner les grandes lignes des yogas les plus connus, entre guillemets, en fonction du prof, en fonction de l'endroit où vous allez, ce ne sera jamais exactement la même chose. Ok ?
Bien sûr.
Souvent, celui qu'on pratique le plus en France, c'est celui qu'on appelle le Hatha. Donc, le Hatha yoga, c'est un yoga dans le mouvement, avec la respiration. Donc, on travaille la respiration, on travaille le mouvement, mais c'est plutôt... C'est ce que tu as fait. On avait fait certainement sur la plateforme. Où, voilà, c'est du yoga qui est dans le mouvement, mais qui est vraiment accessible à tous, qui est pas trop rapide. Donc ça, c'est le hatha. C'est souvent celui qu'on connaît le plus. Mais encore une fois, en fonction, moi par exemple, mes cours de hatha sont pas les mêmes que des cours de hatha que quelqu'un va donner dans une maison de retraite.
Oui.
Tu vois, c'est forcément pas. Il y a des gens qui m'ont dit, moi j'ai fait des cours de hatha, on est resté allongé sur le dos pendant une heure. Alors que moi, tu vas venir au studio et on va faire des trucs qui sont un peu plus plus physiques. Donc ça, c'est le hatha. Après, on a ce qui est plus dynamique, qu'on appelle le vinyasa ou le power. Donc ça, c'est des formes de yoga où c'est une respiration, un mouvement. Donc à chaque fois que tu respires, tu bouges. Donc forcément que ça crée une espèce de méditation en mouvement, en fait, parce que tu es vraiment porté par ta respiration. C'est plus physique. Donc ça, c'est le vinyasa. Après, il y a le kundalini qui est beaucoup à la mode en ce moment. Le kundalini, c'est beaucoup, ce sont des travails, du travail d'énergie. Donc, il y a du mélange de chants, de respiration, de positions, les mantras, on appelle ça les mantras quand on chante des chants. Donc ça, c'est le kundalini. On a aussi le yin. Le yin, c'est du yoga qui est très, très lent. Et l'idée, c'est d'aller vraiment étirer en profondeur. Donc, très bien pour les, surtout les, je pense aux sportifs, par exemple, qui ont besoin d'étirements en profondeur. Ils font beaucoup de yin. Et là, par exemple, tu gardes les positions, une seule position, entre 3 minutes et 10 minutes. Donc, il y a des positions qui sont très agréables. Il y en a d'autres, imagine bien que tu sens que ça tire. Et l'idée, c'est vraiment d'aller étirer les tissus profonds. Donc, ça, c'est le yin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le prénatal pour les femmes enceintes. Il y a le yoga pour les enfants. Allez, je vous le dis. Il y a le côté très commercial du yoga aussi, où c'est à la mode. Et donc, on invente plein de trucs. Donc, du boxing yoga, du pilates yoga, du yoga dans la piscine, du yoga avec les chèvres, du yoga... tout est, tu vois, à partir du moment où il y a le yoga, ça se vend beaucoup en ce moment. Donc, voilà. Après, moi, j'ai pas d'avis. Je suis pas dans le truc de dire c'est du n'importe quoi. Parce que je crois que finalement, on s'en fiche un peu comment on commence le yoga. Le truc, c'est de le commencer. Et à un moment donné, de toute façon, quelqu'un qui commence avec le yoga avec les chèvres, n'importe quoi, ou le yoga avec la boxe, je pense qu'à un moment donné, on a envie d'approfondir un peu plus le yoga et après, on continue notre aventure avec le yoga. Donc, ce n'est pas très important. Encore une fois, je reviens à la courgette. Si c'est juste une tranche de une part de courgette qui est mise dans un hamburger avec plein de trucs qui sont pas forcément bons, c'est toujours une courgette de manger. Et puis on peut espérer que ça va donner envie aux gens après d'aller manger un peu plus de légumes.
J'adore tes comparaisons, c'est génial. Et du coup, demain je veux commencer le yoga. Simplement, j'ai pas envie d'acheter la nouvelle dernière tenue à la mode. J'ai pas envie d'acheter le dernier tapis qui est ouf, qui coûte en plus 3 reins. Je ne sais pas faire de pose acrobatique, je ne suis pas douée. Est-ce que du coup, le yoga, c'est accessible à des personnes qui sont aussi souples qu'un manche à balai?
C'est génial. Et encore une fois, alors ça va être lourd, ma truc avec les légumes, mais je sais qu'avec toi et ta communauté, on peut... C'est comme si tu me disais, je suis en mauvaise santé, donc ça va être compliqué pour moi de manger des légumes. Ben non, mais en fait, c'est complètement l'inverse, quoi. C'est parce que t'es justement pas en bonne santé qu'il va falloir manger plus de légumes. Donc, c'est parce que t'es raide et que t'es pas forcément, qu'il va falloir y aller.
D'accord, oui, c'est pas con.
Mais non, il y a vraiment besoin de rien. Et je vous disais, je touchais un petit peu sur le côté commercial et vendeur du yoga. Et on nous fait croire qu'on a besoin de trucs. Et vraiment, on nous fait croire qu'on a besoin du dernier legging à la mode, qu'on a besoin du tapis, comme tu dis, qui coûte un rein, qu'on a besoin des chaussettes pour pas glisser. C'est le dernier truc. Qu'on a besoin, quoi d'autre? On a besoin de rien, mais vraiment de rien. On peut pratiquer dans l'herbe, alors en ce moment pas trop, mais il y a pas besoin. Et j'ai envie de dire, c'est comme tout, avant d'acheter quoi que ce soit et de déjà commencer. Déjà juste commencer. Sortez une grande serviette de bain, et puis vous la posez par terre et puis vous faites des positions. On est pieds nus, donc il n'y a même pas besoin d'acheter quoi que ce soit en... Tu vois, des baskets pour aller courir ou des trucs, on est pieds nus, donc il n'y a besoin de rien. Et le truc qui est génial, c'est quand même que quand on est sur son tapis, et je pense par exemple si vous faites une pratique dans un studio avec d'autres personnes, quand on est sur notre tapis, en fait, on a souvent les yeux fermés, on est tout le temps en train de s'écouter respirer et d'être vraiment connecté à ce qui se passe à l'intérieur, qu'on ne voit pas les personnes autour de nous. Donc, on s'en fout, en fait, de ce que chacun porte. Et puis, si c'est... Enfin, c'est vraiment une pratique qui est très centrée vers soi. Et donc, on va pas au yoga pour impressionner les autres ou pour faire du beau. Enfin, ça, on nous vend des trucs sur Insta qu'il faut faire du beau. Le yoga, ça nous reconnecte au beau à l'intérieur de nous, mais c'est tout en fait. C'est pas du tout dans le paraître, dans le physique, dans les positions de fou. Tu parles des positions de fou. Mais non, mais après, si ça nous éclate de les faire, c'est génial. Hein. Si c'est une motivation pour commencer le yoga, super. Il y a des gens qui commencent le yoga parce qu'ils veulent apprendre à faire l'équilibre, le grand écart. Ok, pourquoi pas. Mais en fait, très rapidement, on se rend compte que c'est pas important. C'est vraiment pas important.
Et toi, du coup, ta pratique sur tapis, elle est en pourcentage, tu vois, genre en proportion égale à la pratique hors tapis, selon toi ?
Non, elle y était quand j'étais plus jeune. Ça va faire genre, je suis très vieille, j'ai 40 ans, je suis pas si vieille que ça. Mais quand j'étais plus jeune et que justement, je faisais beaucoup de sport, de triathlon, j'avais besoin quasiment tous les jours, hein, de transpirer, d'être dans mon corps, de me sentir hyper forte. Tu me disais, allez Audrey, on va courir un semi-marathon, j'étais prête à y aller. Enfin, donc, j'avais besoin de ça. Et en fait, au fur et à mesure, le yoga en dehors du tapis, a pris de plus en plus de place. Je suis aussi maman, j'ai 2 enfants de 10 et 12 ans, donc mon temps pour moi, il a aussi diminué. Et que je me suis rendu compte que finalement, ce qui me faisait le plus de bien et ce qui m'avait changé ma vie, mais vraiment, c'est ma pratique de yoga en dehors du tapis. Ma pratique sur le tapis, elle fait du bien à mon corps, elle fait du bien à ma tête. De là à dire qu'elle me change ma vie, non, je pense que si j'avais pas ramené le yoga en dehors du tapis, je suis pas sûre que je serais en train de te dire que ça m'a changé ma vie, ça m'aurait fait du bien. Comme ça fait du bien d'aller courir, ça fait du bien de... Est-ce que ça change la vie ? Je sais pas, mais le moment où on ramène... Je prends de la bienveillance dans toutes nos pensées, dans toutes nos actions, dans tous nos échanges avec les autres, dans notre relation à nous-mêmes. Mais vraiment, mais moi, le yoga, ça m'a aidé à m'aimer.
D'accord, parce que justement, t'as répondu rapidement à la question qui arrivait. C'était genre, tu dis que ça a changé ta vie, le yoga hors tapis. Parce qu'avant, t'étais quoi comme type de personne ? Et qu'est-ce que t'estimes qu'aujourd'hui, outre la bienveillance, en quoi t'as changé ?
Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces questions. Et c'est génial, c'est génial de repartir. Tu sais, quand on fait quelque chose tous les jours, on voit pas tout le temps le chemin qu'on a parcouru. On se rappelle plus forcément au début comment c'était. On voit tout le temps tout ce qui nous reste encore à faire. Et c'est génial de pouvoir repartir en arrière et me dire, moi, ce que ça m'a fait, c'est que plus jeune, je faisais de la gymnastique. Voilà, je vais t'expliquer. Donc, je faisais de la gym, je faisais du tennis, je faisais plein de trucs. Et la gym, je faisais ça en un bon niveau. Et donc, la gym, c'est quand même le truc par excellence où tu n'écoutes pas ton corps. Moi, je me rappelle de trucs où je faisais le grand écart, le mono me sautait dessus, on finissait tous les entraînements en pleurs. Tout le temps, je pleurais parce que ça me faisait mal, parce qu'on nous poussait. T'avais mal, on s'en fichait. J'avais les mains, tu sais, avec les peaux qui étaient arrachées. C'était normal, fallait pas se plaindre. Je me faisais des entorses tout le temps. Je faisais des compétitions en boitant. Enfin, tout un rapport au corps qui était mais complètement... genre, si j'avais pas mal, c'est que j'avais pas travaillé assez, j'avais pas assez poussé. Tu vois ? Et donc, dans ma façon de courir, c'était la même chose. Je courais, si je commençais à avoir mal un peu quelque part, même pas je le voyais, c'était, il fallait courir, j'avais décidé de courir tant de temps ou telle distance, fallait y aller. Et le yoga, ça m'a changé la vie parce que ce côté sportif, ce côté se dépasser tout le temps, ce côté être meilleur que les autres tout le temps, ce côté, mais c'est épuisant parce qu'en fait, on l'a dans la vie tous les jours. Je me mettais une pression de fou de tout le temps devoir être meilleur que les autres. Tout le temps devoir me dépasser, tout le temps devoir aller plus loin, de devoir me faire mal, me mettre dans des situations où ça faisait mal, parce que sinon je méritais pas de... Tu vois, vraiment, c'était ancré dans ma tête. Et donc le yoga, ça m'a permis de réapprendre ma valeur d'être humain sans passer par justement le sport et se dépasser, de revenir juste à... Mais Audrey, en fait, t'as pas besoin de faire tout ça. Juste exister, en fait, ça suffit. Tu vois, de revenir, et ça a changé la vie. Et non seulement ça m'a changé ma vie, mais j'ai envie de dire, ça a sauvé la vie de mes filles. Parce que si j'avais été une maman qui était toujours dans le « faut faire plus, t'as pas mal, c'est pas grave », j'aurais créé des enfants, tu vois. Enfin, il y a plein de fois où je me dis, mais heureusement que j'ai ça, heureusement que je suis revenue à un truc où je suis plus en train de punir mon corps tout le temps, je travaille avec mon corps. Je lui fais du bien, je l'écoute. Et c'est plus du tout la même relation. Et ça change forcément la vie.
Ah bah tu vois, ça fait un parallèle à toutes ces personnes qui nous suivent sur les réseaux, qui justement font du mal à leur corps au quotidien, mais avec l'alimentation. Justement, je trouvais ça intéressant de te parler parce que je me doutais qu'il y avait un lien, justement, un rapport au corps beaucoup plus bienveillant, évidemment, quand on pratique le yoga, on lâche prise, quoi.
Mais complètement. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas... Tu sais, souvent, les personnes, et je pense que ça va te parler, hein, y a des gens, des fois, moi, qui viennent au studio et qui me disent « Je veux commencer le yoga pour perdre du poids. »
D'accord.
Et alors ça, moi, c'est très dur. Là, je pratique le yoga pour pas être dans la réaction et pas parce que ça me fait mal, parce que je me dis c'est pas la raison pour laquelle on veut faire quoi que ce soit. Perdre du poids, c'est jamais une motivation en soi. Mais finalement, quand tu discutes avec les gens, c'est pas perdre du poids qui est important. Et j'espère que j'offusque personne. Hein, laissez-moi finir. C'est pas perdre du poids qui est important. Et je comprends que pour certaines personnes, c'est très important. Mais finalement, ce que les gens recherchent, c'est être bien dans leur peau. C'est pas perdre du poids en soi, ça vient après. Mais en fait, ce que les gens, ils sont en train de crier quand t'es dit « je veux perdre du poids », c'est « je veux m'aimer, je veux être bien dans ma peau, je veux que ça arrête de prendre toutes mes pensées et toutes mes... je veux me sentir libre, je veux me sentir... » Eh ben, tu sais quoi? Du coup, dans ton quotidien, fais des choses qui viennent nourrir ça, c'est-à-dire que fais des choix dans ton alimentation qui viennent faire que ça te ramène du bien-être et que tu te sens mieux dans ta peau. Fais du yoga, fais ce que tu veux, mais c'est plus, on n'est pas contre notre corps. On est vraiment, ouais, c'est ça, c'est à un moment donné, et quand on est bien avec son corps, forcément que si on a du poids à perdre, parce qu'on est en surpoids, on va le perdre, forcément. Mais c'est plus la même motivation. Tu vas pas courir pour perdre du poids, tu vas courir pour te faire du bien.
Merci.
Tu manges des épinards parce qu'il faut que tu perdes du poids. Tu cuisines des épinards d'une certaine façon où tu vas aimer ça et tu vas te faire... Non, mais ça change la vie.
Bah, bien sûr, mais c'est ce qu'on... Merci Audrey, évidemment, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et tu ne coupes de personne puisque c'est exactement ça. Perdre du poids n'a jamais rendu personne heureux. Jamais. C'est pas parce que d'un coup, tu te vois dans le miroir avec 40 kilos de moins, tu te dis que tu t'aimes. Aucun rapport. En effet, tu as raison, le but ultime, c'est pas de perdre du poids, c'est d'apprendre à s'aimer. C'est de s'aimer, pas que son corps, s'aimer dans sa globalité, en fait. Aimer la personne que tu es, avec qui tu vas vivre le reste de ta vie.
Bien sûr, et plus tu t'aimes, et plus tu prends des décisions qui sont saines, qui vont venir... qui sont faites par amour. Et par amour, et ben, tu sais très bien que tu vas pas manger des hamburgers tous les jours.
Bien sûr. Je suis d'accord. C'est trop. C'est puissant ce que je dis parce que c'est exactement ça. Et ça donne vraiment envie de, tu vois, je te jure, de pratiquer. Mais du coup, d'ailleurs, je me demandais, sur toi, sur ta plateforme 100% yoga, tu fais le yoga donc sur tapis. Tu proposes aussi des méditations, des trucs comme ça? Ouais, tu
proposes. Non, il y a des méditations, il y a des respirations, il y a des petites discussions, par exemple, je partage, il y a des discussions. Alors moi, je fais beaucoup en fonction de ce que les gens me demandent. Oui. Donc, par exemple, il y a une vidéo sur le véganisme, puisque moi, le yoga m'a emmenée vers le véganisme. Donc, je parle de ça. Je parle aussi de l'histoire de certaines positions. Donc, ouais, non, il n'y a pas que... que du tapis. Le tapis, c'est souvent le plus simple pour commencer, entre guillemets. Ouais. Et puis après, souvent, on a envie d'approfondir et puis de pratiquer plus souvent, ouais, en dehors du tapis. Mais en fait, le yoga, ça nous donne des outils pour notre quotidien, en fait, vraiment, quoi. C'est comment... tu sais, je vais te donner un exemple. Je travaille beaucoup avec les écoles. Et donc, je forme des profs et puis j'interviens aussi auprès des élèves. Et il y avait une école avec qui j'ai travaillé pendant un an et ils m'ont invité à leur kermesse en fin d'année. C'était il y a quelques années quand il y avait encore des kermesses dans le monde. et donc, il y avait une petite fille qui avait 10 ans et qui était maître de cérémonie. Donc, elle avait un texte à apprendre. Enfin, tu vois, c'est pour 10 ans, c'est... Et à un moment donné, la maîtresse m'appelle et me dit « viens voir ce qu'elle est en train de faire ». Et donc, je regarde et elle était derrière la scène, derrière le rideau. Elle s'était mise dans un coin et elle est en train de faire une respiration qu'on appelle la respiration alternée avec les narines, qui aide en fait à se calmer et c'est assez instantané, quoi. Toute seule, sans que personne lui dise quoi que ce soit, elle a réussi à reconnaître qu'elle était stressée. Elle s'est rappelée qu'elle avait un outil de respiration pour lui faire du bien. Et elle a fait le choix à 10 ans de se mettre dans un coin, de s'isoler de tout le bruit, de tout, et de faire sa petite respiration.
Non, c'est trop cool. Oh, j'adore.
Je me dis, mais c'est ça mon yoga, c'est ça le yoga que je pratique. C'est pas du yoga où elle avait pas de tapis, elle avait pas de fringues à 300 euros le legging, elle avait pas. Elle a juste reconnu, grâce au yoga, elle a appris à reconnaître qu'elle était stressée. Donc il y avait déjà un truc qui allait pas. Et ça, c'est souvent, les personnes qui font des burn-out, des choses comme ça, souvent ça commence par reconnaître qu'on a été trop loin ou qu'il y a un truc qui va pas, qu'on est en déséquilibre. Et elle s'est rappelée qu'elle avait un outil que le yoga lui avait donné pour gérer ça tout de suite maintenant dans le quotidien. Et ben ça, c'est le yoga. Donc ouais, en dehors du tapis, il y a plein de petites astuces aussi que je partage.
Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Et alors du coup, on m'a posé une question. Mais tu penses que tu vas rigoler, mais je te la pose quand même. À quelle fréquence pratiquer pour ressentir les bienfaits du yoga?
C'est une question qu'on me pose très, très, très souvent. Et en fait, il y a vraiment une réponse. Alors ça, c'est pareil, hein. C'est perso, c'est qu'une expérience de moi qui pratique depuis 17 ans, je pratique.
Ah ouais?
Et donc, pour moi, il y a une grosse différence. Une fois par semaine, ça change notre corps et ça change notre tête. Vraiment, d'accord. On sent qu'il y a des bienfaits dans notre corps et dans notre tête juste une fois par semaine.
D'accord.
Deux fois par semaine, ça commence à changer la vie. Trois fois par semaine ou plus, ça change complètement la vie. Donc, il n'y a pas de... C'est-à-dire que... Puis ça dépend ce qu'on appelle pratiquer le yoga. Là, je parle de pratiquer toutes les pratiques. Donc, ça peut être de la méditation, ça peut être des positions, ça peut être... Une fois par semaine, vraiment, on sent que... C'est la porte d'entrée, en fait. C'est le truc qui commence à nous dire « Ah ouais, je sens que pendant un ou deux jours après, là, je suis vraiment bien. » Puis après, on reprend malheureusement avec le monde extérieur, on repart dans nos trucs. Et l'avantage de deux fois par semaine, c'est que ça permet de garder les bienfaits un petit peu plus longtemps, puis de se remettre une petite dose avec la deuxième séance. Et puis après, si on peut faire plus, plus on pratique, plus mieux c'est, quoi. C'est comme cela. Ouais. Hein.
Mais du coup, les personnes qui vont dire « j'ai pas le temps », moi, j'ai pas le time, j'ai pas que ça à faire, parce que moi, par exemple, je peux le dire, hein, j'ai un bébé de 8 semaines, j'ai pas le time. Tu leur dis quoi? J'ai pas le time.
Et le premier truc que je leur dis en ce moment, c'est que je leur dis, il y a une application que tu peux mettre sur ton téléphone pour voir combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux.
Ok, d'accord, ok. Oui, trop de temps. Oui.
Ok, oui. Alors ça, c'est le premier truc que je dis en ce moment, parce que c'est souvent l'excuse de « on n'a pas le temps ». Le deuxième truc que je dis, c'est... aussi de s'enlever cette idée que le yoga, il faut que ça dure forcément genre une heure. Tu vois, que c'est un cours d'une heure. Tu peux très bien faire 5 minutes toutes les heures. Tu peux très bien faire 5 minutes de méditation ou 10 minutes de méditation plusieurs fois dans ta journée. Tu peux très bien faire 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. C'est pas obligé. Personne n'a dit que pour qu'il y ait des vrais bienfaits, entre guillemets, ou qu'on pratique le vrai yoga, et je mets ça entre guillemets, faut que ce soit une heure avec le tapis orienté à l'est, nanana, enfin, avec de l'encens, avec, tu vois ce que je veux dire? C'est ramener, si on ramène le yoga dans notre vie de tous les jours, c'est comme respirer. T'as le temps de respirer, donc t'as le temps de pratiquer. Enfin, quand tu vas marcher, tu peux très bien marcher et puis te prendre 5 minutes où tu fais des respirations en marchant. Et le troisième truc que je dis, c'est que, un, si on veut, de toute façon, on trouve le temps. Et deux, c'est de l'incorporer dans ta journée. Donc, de vraiment te dire, si tu te dis, par exemple, moi, je vais pratiquer tous les matins à 6 heures, mais tu sais très bien que 6 heures, c'est pas une heure pour toi parce que t'aimes pas te lever le matin ou c'est un moment où tu dois allaiter. C'est clairement que ça va pas fonctionner. Donc, c'est trouver un moment dans la journée où ça fait partie de notre vie. Encore une fois, comme se brosser les dents, quoi. C'est un truc qu'il faut faire. Eh ben, tu le cales dans ta journée. Moi, je sais que, par exemple, c'est le matin, parce que c'est le seul moment où mes filles, elles sont encore en train de dormir. Et donc, j'ai un petit peu de temps pour moi. Donc, quand je me lève, mon tapis, il est installé dans ma salle à manger. Je le prépare le soir. J'ai même mes fringues, donc ça va loin. Hein. J'ai une espèce de, tu sais, les combinaisons que tu rentres, tu sais, par les pieds, les bras, tout, c'est un truc tout droit. Ouais. Et en fait, je la mets sur le pied de mon lit. Et donc, comme je me lève le matin, j'ai encore la tête un peu endormie. Eh ben, je rentre, je glisse dans ma combinaison. J'avance les yeux encore un peu endormis jusqu'à mon tapis. Tout est prêt. Je pratique et je sais que ça peut durer entre 10 minutes et une heure parce que ça va dépendre de quand mes filles, elles se lèvent. Et c'est pas grave.
D'accord. Donc, toi, tu pratiques au lever du lit. Tu vois, ce que moi, je me demandais comment, parce que moi, je suis quelqu'un qui, pour raconter ma vie, je me réveille le matin. Maintenant, je prends une grande gorgée d'eau parce que j'ai appris qu'il fallait boire de l'eau.
Oui, c'est très bon de boire, ouais.
Donc maintenant, je prends une grande gorgée d'eau parce que j'ai la gourde à côté de moi, parce que maintenant que j'allaite, j'ai soif tout le temps. Oui. Et je me disais, mais à quel moment je commence j'y vais par éveillé. Est-ce que je me douche d'abord? Je me douche après? Je mange avant? Je mange après? Tu vois,
Eh ben ça va être comme, tu sais, on disait d'essayer des différents types de yoga, c'est d'essayer ce qui fonctionne pour toi. Moi, j'aime le matin parce que j'ai une vie comme toi qui est très remplie et que moi, je donne des cours jusqu'au soir, à peu près jusqu'à 10h le soir. Donc, je suis rarement rentrée à la maison avant 10h30, parfois 11h. Donc, ça fait trop tard après pour pratiquer. Donc, moi, j'aime cette idée de me lever, de dire je commence par ça parce que comme ça, un, c'est fait. Et deux, purée, je commence la journée avec moi-même en me faisant du bien. Ça donne le ton pour toute la journée, quoi. Après manger ou pas manger, c'est quand même mieux souvent de pratiquer sans avoir mangé, ou au moins on a le temps de digérer, parce que sinon il y a des positions qui peuvent faire remonter les aliments plus vite que ce qu'on aimerait, mais c'est vraiment propre. Il y a des gens qui adorent pratiquer avant d'aller se coucher, qui méditent avant d'aller se coucher parce que ça les aide à se poser avant d'aller se coucher. Soit pareil, essaye, vois ce qui fonctionne pour toi, mais il faut que tu le kiffes, parce que si c'est quelque chose que tu dois faire,
ouais,
tu feras pas longtemps.
C'est sûr. Et d'ailleurs, pourquoi il y a des différences? Tu vois, j'ai vu sur ta plateforme, tu as des séances morning, tu as les séances du soir. En quoi c'est différent? Qu'est-ce qui change dans le soir et dans le matin?
Le matin, en fait, on réveille les énergies. Donc, il faut que tu imagines que le matin, tu as passé toute la nuit endormi. Et donc, le matin, moi, j'imagine ça un peu comme un puzzle. Donc, tu as ta tête, tu as ton corps, tu as ta respiration. Tout est un peu, tu vois, écarté. Et en fait, notre pratique, elle nous aide à remettre tout ensemble, à tout réemboîter. Donc, on se reconnecte à notre corps, on se reconnecte à notre respiration. C'est vraiment... et on se réveille. Donc, on ouvre le corps. Donc, toutes les positions souvent du matin, c'est vraiment des ouvertures de poitrine. C'est des choses où... on réveille l'énergie, on fait circuler les énergies, on salue le soleil. Donc, c'est vraiment cette idée d'aller vers le haut et de s'ouvrir. Le soir, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a été surstimulé souvent toute la journée. Il y a eu beaucoup de bruit, on nous a demandé beaucoup d'attention, on a été tiraillé à droite, à gauche. Et donc, le soir, c'est le moment où on veut se débarrasser de tous ces trucs qui ne nous appartiennent pas. Et pour revenir vraiment à soi, en fait, donc se débarrasser de toutes ces pensées... qui nous distrait, en fait, tout ce qui s'est passé dans la journée, tout, et revenir vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire à soi, son corps et sa respiration. Et le soir, on a tendance plus à fermer, donc on ralentit le rythme, et on a des positions qui sont plutôt des positions où on se penche en avant, des positions où on ferme, on calme, et là, on est plus connecté à la lune. Donc, c'est pas le même, forcément les mêmes positions, les mêmes intentions, les mêmes énergies qu'on travaille. Et le soir, c'est vraiment ça. C'est se débarrasser de tout ce qui nous appartient pas. Et Dieu sait qu'on en a en fin de journée. Et puis d'aller se coucher en étant vraiment serein et léger. Et puis, connecté à soi.
Ah, c'est chouette. Et du coup, là, on est en plein confinement. Donc, c'est pas demain la veille que je vais aller faire un cours de yoga. On m'a posé comme question, j'ai jamais fait de yoga de ma vie, est-ce que je peux commencer le yoga avec toi, par exemple, Audrey, sur ta plateforme? Est-ce que c'est dangereux?
C'est pas dangereux à partir du moment où on part vraiment avec cette intention de se faire du bien. Ok. Et ce rappel, et ça, c'est peut-être le truc le plus important, je vais vous dire, sur cette interview, c'est que personne d'autre que vous ne sait ce qui est bon pour vous. N'importe quel... Même un prof de yoga qui est prof de yoga depuis 60 ans, il ne sait pas ce que vous ressentez dans une certaine position. On a tous des corps différents, des vécus différents, des traumatismes différents. Il y a plein de choses différentes dans notre corps, dans notre tête. Et donc, commencer à la maison, et même commencer dans un studio, c'est oui si on se dit... Je me fais confiance que même si le prof, il dit lever la main droite, et moi, je sens qu'en fait, je dis n'importe quoi, lever la main droite, tout le monde peut le faire normalement, mais, et que moi, je sens qu'il y a un truc qui cloche, je le fais pas. Et donc, dans ces cas-là, on peut pas se blesser, on peut pas se faire mal, puisqu'on est complètement à l'écoute de soi. Et c'est le risque de temps en temps, et c'est le risque des gourous, on parle souvent des gourous, c'est que on place le prof sur un espèce de, piédestal, là, et puis il a la réponse à tout, il va nous sauver la vie, il va nous dire quoi faire, mais pas du tout, en fait. Les meilleurs profs de yoga, c'est les profs de yoga qui nous réapprennent à nous écouter. Les réponses, on les a, on le sait, les trucs qui nous font du bien, les trucs qui nous font pas du bien, donc oui, on peut commencer à la maison avec moi ou quelqu'un d'autre, il y a plein d'autres profs qui sont super, mais vraiment, si on se dit, je m'écoute et j'y vais à mon rythme. À mon rythme. Il n'y a pas de performance, il n'y a rien de... Donc oui, on peut commencer.
Ouais, et du coup, comme tu dis, on est dans l'écoute de soi, la question que j'ai eue, qui finalement, elle se répond toute seule, j'ai eu beaucoup de questions sur les doit-on. Doit-on faire les salutations à chaque pratique? Doit-on faire une pratique d'une heure? Doit-on, on m'a dit quoi? Combien de temps doit durer une séance? Tu vois, tous ces doit-on, en fait, en yoga...
Est-ce que tu crois que je vais répondre? Parce que je pense que tu l'as, la réponse.
Doit-on manger une courgette? Non, je rigole.
On reste dans la courgette. Mais non, mais il n'y a pas de doit-on. C'est pas...
Non, il n'y a pas de doit-on. Mais la question est...
Non, et il faut aussi revenir à un truc, c'est que le yoga, ça existe depuis des milliers d'années. On n'arrive même pas à vraiment dire quand est-ce que ça a commencé. Ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'au début, le yoga, c'était pratiqué que par les hommes.
Ah bon?
Ouais, que par les hommes. Les femmes n'avaient pas le droit. Donc, c'est très drôle quand tu vois maintenant qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui pratiquent le yoga. Donc, il faut bien imaginer qu'il y a des milliers d'années, on n'avait pas les mêmes corps, on n'avait pas les mêmes vies, on n'avait pas... Donc, ce qui fonctionnait, j'ai envie de dire, 500 ans avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, forcément que ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Donc, même les trucs des grands gourous, ils ont fait des livres avec les positions et tout, on ne pourrait pas les reproduire aujourd'hui parce qu'on n'avait pas les mêmes vies. On fait même pas la même taille que ce qu'on faisait à l'époque. Je veux dire, tout est différent. Donc, je crois vraiment pas. En fait, il faut arrêter le truc de si on ne fait pas ce qui est marqué dans les livres, ça veut dire que ça ne va pas fonctionner. Le yoga, ce n'est pas une science où il faut tout faire à la lettre, sinon ça ne fonctionne pas. Sinon, on n'a pas les bienfaits, on n'a pas les bienfaits. Ils sont là. Si on se fait du bien et on sent que ça nous fait du bien, il n'y a pas de raison de le faire. Et moi, j'ai un vrai problème, je vous disais, avec les gourous ou les règles de « t'as tes règles, tu ne peux pas pratiquer ». Je parle de règles, mais c'est la même chose. Les règles, il y a des profs de yoga qui disent « le jour où vous avez vos règles, vous ne pouvez pas pratiquer. Quand c'est la pleine lune, on ne peut pas pratiquer. » Mais qui d'autre que moi sait comment je me sens quand j'ai mes règles?
En fait, il n'y a pas de compétition. C'est pas genre moi, je suis
en... Malheureusement, il y en a une. Malheureusement, il y a quelqu'un qui a trouvé que ce serait une bonne idée de faire des championnats du monde de yoga.
Ah bon?
J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Je ne savais pas que ça existait. Je ne sais pas ce qu'ils jugent à part des positions de gym. Je ne vois pas trop. Mais non, ce n'est pas du tout une compétition. Ce n'est pas une performance. C'est pas, après, il y a des bases à apprendre, bien entendu. On ne fait pas n'importe quoi. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dire qu'il faut absolument faire 5 salutations au soleil A, 5 salutations au soleil B. Après, il faut faire ci. Après, il faut faire ça. Il y a des types de yoga qui fonctionnent comme ça. Il y en a plein d'autres qui sont beaucoup plus libres. Donc, c'est à vous d'essayer et de voir celui qui vous convient.
Et pour terminer, on m'a pas... Alors ça, j'ai découvert. Je ne savais pas.
Dis-moi ce que tu as découvert.
Est-ce que le yoga a un pouvoir guérisseur? On m'a parlé de problèmes de fertilité. Est-ce que c'est marketing ou pas? J'avais jamais entendu parler de ça. Et pour l'endométriose aussi, apparemment. Est-ce que ça guérirait? Est-ce que tu es un gourou qui va me sortir que c'est bon, venez pratiquer avec moi, venez sur 100% yoga?
Bien sûr que je vais faire ça, venez, je vais vous sauver, je vais vous rendre votre vie parfaite. Tous vos problèmes que vous aviez, vous les aurez plus en fin de cours. Et non, si un jour vous entendez ça, sortez en courant. Non, mais bien sûr que ça va guérir. Comme, encore une fois, une alimentation équilibrée, ça guérit plein de problèmes. Et bien le yoga, c'est la même chose. Notre respiration, c'est l'alimentation. Donc, quand on réapprend, alors je vais vous laisser là-dessus parce que moi, ça me passionne, mais je ne sais pas si vous saviez qu'en fait, l'espèce humaine, les hommes, ce sont les seuls qui peuvent respirer par le nez et par la bouche. Les autres espèces animales, en fait, elles ne peuvent pas respirer par la bouche. La bouche, c'est que pour manger ou pour faire du bruit comme les chiens. Mais ils ne respirent pas, en fait, par la bouche. Nous, comme on est un peu plus évolués, on va dire... Quoique des fois j'en doute, mais on est censé être plus évolué. On a développé ce plan B au cas où, donc on peut respirer par la bouche. Mais tu vois bien, Marisa, toi qui as un petit bébé, je ne sais pas si ça lui est déjà arrivé d'avoir le nez bouché, peut-être pas encore.
Pas encore.
Mais tu verras que quand elle, je ne souhaite pas, mais ça va certainement faire partie de la vie qu'elle aura le nez bouché. Les enfants sont très malheureux quand ils ont le nez bouché, parce qu'en fait, la respiration par la bouche, ce n'est pas du tout naturel. Et la tristesse, c'est qu'en 2020, dans le monde dans lequel on vit, on ne respire que par la bouche. Et donc, je vais vous le faire, mais toute la journée, on fait « je suis en retard, faut que je me dépêche, vite, vite, vite ». Et cette respiration par la bouche, elle nous rend malade, parce qu'en fait, c'est pas du tout naturel. Et on a des capteurs à l'intérieur de notre nez qui sont reliés au cerveau. Et quand on inspire par le nez, toutes les infos qui sont dans l'air qu'on vient d'inspirer sont envoyées au cerveau. Donc, ça nous dit, par exemple, la qualité de l'air, la température de l'air. Ça, on arrive à comprendre. On arrive à comprendre le truc de inspirer par le nez. Quand on expire par la bouche, en fait, l'air, il a circulé dans tout le corps. On est d'accord, il s'est baladé, il ressort. Quand on expire par la bouche, toutes les infos qui sont contenues dans cet air, on les perd puisque ça va pas au cerveau. Donc, l'idée d'expirer par le nez, c'est que l'air, il va repasser par les capteurs. Et donc, il va dire à notre cerveau, là, il y a un truc qui marche pas dans le corps. Il va falloir aller. Et notre corps, il est trop bien fait. C'est que tout seul, il se guérit, il se met en place. Donc, il y a plein de choses qu'on peut guérir, notamment par la respiration, par le nez. Juste ça, en fait.
D'accord.
Non, c'est passionnant, hein. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais et donc après il y a les positions qui vont venir également débloquer des choses, qui vont aider à faire circuler des choses. Donc avec les positions, on peut régler des problèmes de sciatique, des problèmes de dos, de tous les jours, j'ai envie de dire. Et la respiration vient également aider le corps à, c'est une machine notre corps en fait.
Oui.
Naturellement, il sait comment se guérir, mais nous on vient foutre le bazar. Parce qu'on a appris, à respirer par la bouche, on se rend pas compte. Et toute la journée, on respire par la bouche. Donc oui, ça guérit, mais je peux pas vous donner une liste de tout ce que ça va guérir et je peux pas vous promettre que ça va fonctionner. Voilà.
C'est sûr. Mais c'est comme on dit sur l'alimentation. Bien sûr, l'alimentation, pour moi, c'est un pouvoir guérisseur, mais
complètement.
Évidemment. Et d'ailleurs, c'est le problème de nos jours. Quand on a quelque chose qui va pas, on questionne jamais son alimentation. Jamais tu vas te dire, est-ce que je mange mal? Tu vas te dire, ah, j'ai un problème de quelque chose, je dois avoir un cancer, je dois avoir ceci. Non.
Et puis, on va te donner des médicaments.
Il faut des médicaments. Non. Ton médicament, c'est ta nourriture en premier, en ton alimentation. Donc, j'imagine bien qu'aussi, avec notre quotidien aujourd'hui hyper stressant et tout, on détraque notre organisme tout le temps. Donc le yoga, en effet, ça fait revenir encore toujours à soi, au corps. Et puis,
complètement. Et il faut vraiment se rappeler que même si le yoga en ce moment, c'est très marketing et c'est à la mode, et c'est pas un truc qui a été inventé il y a 10 ans et puis qui va disparaître dans 10 ans. C'est pas un truc qui est à la mode et qui va plus... On est en train de se reconnecter à des choses qui ont toujours été là, c'est juste qu'on avait oublié. On a oublié comment respirer correctement. On a oublié comment vivre dans le bien-être. On a oublié comment se nourrir correctement. On revient en fait juste à notre état naturel.
C'est fou. Ouais. Non mais c'est fou en fait de se rendre compte à quel point on se détruit au quotidien et qu'on cherche des solutions ailleurs.
Ailleurs, mais complètement.
Bah ouais, bah je pense qu'on va s'arrêter là, Audrey, on va arrêter la discussion dessus, parce que moi aussi, je pourrais passer, je pense, les prochaines 24 heures à parler. Mais ma fille, on va arrêter là, mais c'était hyper passionnant, donc merci d'avoir
parlé. Merci à toi, merci.
C'est trop bien, j'ai adoré, et je pourrais en effet parler encore 30 ans, donc stop pour aujourd'hui. Ça me donne envie, moi, de prendre plus de temps pour moi, pour me refaire une activité aussi physique. En plus, pendant le confinement, on n'a pas beaucoup d'endroits où aller, donc ça fait du bien.
Mais tranquille, hein, parce que faut pas que tu te rappelles que ton corps, il a quand même fait un truc complètement merveilleux. Une petite puce qui est juste merveilleuse, et donc il a eu quand même plein de changements. Et donc, vas-y vraiment avec douceur. Et donne-lui le temps aussi de se remettre avant de repartir sur des cours de power, tu vois.
Ah oui, t'as raison.
Tranquille.
Ouais, ouais. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup.
Merci à toi, c'est un plaisir.
À très vite.
À très, très vite. Plein de bisous. Salut.
Bisous, ciao.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.